It is good to give thanks to the Lord.
Jean-Paul II, un homme à la fois extraordinaire et ordinaire, mais sortant des schémas habituels de l'ordinaire, voici quelques anecdotes pleines de verve et d'esprit qui permettront peut-être d'appréhender la relation de Jean-Paul II à Dieu et aux hommes. Nous sommes en 1979, lors de son premier voyage sur sa terre natale, à l'église Sainte-Anne de Cracovie. Il dit « Depuis hier, je me demande ce que signifient tous ces applaudissements. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit « Ce qui est important, ce n'est pas qu'ils applaudissent, mais quand ils applaudissent. » Bien des années plus tard, lors de son voyage au Liban, dans la cathédrale moderne de Harissa débordante de jeunes, il sort sur le parvis pour parler avec eux. C'est alors que tous lèvent les bras, montrant leurs mains comme liées pour lui faire comprendre que le peuple libanais est toujours sous domination syrienne. Il ne peut pas évidemment répondre, mais l'expression de son visage exprime qu'il comprend la situation. Ce même jour, il interrompt les jeunes en leur disant « C'est moi qui devrais vous applaudir, car vous, Libanais, vous savez vraiment applaudir au bon moment. » En Autriche, on l'applaudit en acclamant « Jean-Paul II, nous sommes à ton côté !» Il saisit le micro. « Alors, nous sommes du même côté. » Août 1993, JMJ à Denver. Des centaines de milliers de jeunes l'attendent en chantant. Le pape finit par arriver. Tout souriant, il répond aux acclamations par des gestes du bras. Tout à coup, il s'arrête et pose longuement un intense regard sur la foule. Ce regard est comme amplifié par les écrans géants. On voit alors des larmes perler sur les joues. Le lendemain, dans les journaux, on lit les réactions des jeunes américains. Même Michael Jackson n'a jamais pleuré pour moi. Août 1997, JMJ à Paris. 300 000 jeunes sont massés sur le Champ de Mars. Un immense calendrier électronique installé sur la Tour Eiffel indique « moins 863 jours pour l'an 2000 ». Jean-Paul II commente au micro « On se demandait depuis longtemps pourquoi l'ingénieur Eiffel avait construit sa tour. Maintenant, on sait ». À Mgr Gérard Daucourt, alors évêque d'Orléans, lors d'un déjeuner, Jean-Paul II demande « Avez-vous un gros problème dans votre diocèse ?» « Oui, Saint-Père, un très gros problème que je ne sais pas résoudre. Qu'est-ce donc ? C'est la conversion de son évêque. Eh bien, c'est exactement le même problème dans le diocèse de Rome. » Après une nouvelle tentative d'assassinat à Fatima même, le 12 mai 1982, le cardinal Casaroli, secrétaire d'État, lui dit « Très Saint-Père, la secrétaire d'État a prié toute la nuit pour vous. » Il répond « Dois-je comprendre que finalement, on prie à la secrétaire d'État ?» Et enfin, personne n'a oublié l'étreinte entre le pape et Brandon, cette petite tête blonde, tout contre sa joue, sur cette photo qui a fait le tour du monde. Nous sommes en 1987, ils sont 62 à attendre le pape dans la basilique de la mission Dolores à San Francisco. Tous séropositifs ou malades du sida. Jean-Paul II est en retard. Enfin, il est là, accompagné d'une nuée de personnalités religieuses. Il parcourt lentement la nef. Tout à coup, il entend une petite voix derrière lui. « Hi, viva papa !» Le Saint-Père se retourne. Il découvre une bouille un peu effrontée et deux grands yeux bleus qui le fixent avec un sourire. Brandon a 4 ans. Jean-Paul II le prend dans ses bras et l'embrasse. Téméraire, Brandon lui attrape le cou de ses petites mains. On est à la fin des années Reagan et le sida est la lèpre des homosexuels. Certains pensent qu'on peut l'attraper juste en touchant une personne contaminée. Le baiser du pape surprend et interpelle. Son geste fera beaucoup pour ramener les victimes de la maladie dans la communauté des hommes. Le pape voulait surtout montrer, dit aujourd'hui la mère de Brandon, que quand quelqu'un souffre, il faut avant toute chose l'embrasser.